Vous savez, on est plein de bonnes intentions en ce qui concerne notre consommation, la façon qu'on a de consommer notre alimentation, acheter des produits. On veut tous recycler davantage, acheter local, hein, les achats de proximité, on sait que c'est vers là qu'il faut aller. On veut agir de façon éco-responsable, mais c'est vraiment difficile à faire. L'Observatoire de la consommation responsable de l'École des sciences de la gestion à l'UQAM a publié aujourd'hui la 8e édition de son baromètre qui vise à jauger nos comportements, et on va en parler avec le directeur de l'Observatoire, Fabien Durif. Bonjour, Monsieur Durif.
Oui, bonjour.
C'est important de rappeler que l'objectif de cet exercice-là, c'est pas de nous faire la morale, mais de regarder, juste de regarder comment on consomme.
Absolument pas. L'objectif, c'est vraiment, dernière année, ça fait 8 ans, c'est de comprendre quelles sont les pratiques au niveau de l'achat, du non-achat et du post-achat. Parce que la consommation responsable, c'est vaste. C'est pas uniquement qu'est-ce qu'on achète, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos pratiques, quelles sont nos perceptions, quelles sont nos actions. Et il y a tellement de comportements qu'on peut rentrer dans la consommation responsable qu'en fait, c'est un phénomène qui est difficile à évaluer.
Oui. Et ce qui ressort particulièrement de l'étude cette année, il paraît qu'on est très exigeant à l'endroit des entreprises en matière de responsabilité sociale et que le consommateur de plus en plus est influencé dans ses choix avec cette notion-là de responsabilité sociale?
Je dirais que c'est normal et c'est sain qu'on soit exigeant vers les organisations parce que le consommateur doit être exigeant vers les organisations parce qu'elles ont souvent les moyens d'avoir ce type de pratique-là. Donc, on se rend compte d'année en année que le consommateur, il s'attend essentiellement que l'entreprise, elle respecte le droit de ses employés, elle respecte le droit des clients, elle mette en place des politiques de responsabilité sociale, elle respecte l'environnement et dans une moindre mesure qu'elle soutienne des causes. Donc, on voit que clairement, les attentes sont élevées. En contrepartie, on se rend compte que pour lui, au quotidien, c'est pas si facile que ça, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, avoir toutes les pratiques de consommation responsable, premièrement, c'est impossible. Mm-hmm. C'est complètement impossible. On ne peut pas être le consommateur responsable de base. Et ceux qui sont très responsables, qui scorent le plus hautement dans tous nos comportements, ils en ont conscience. Donc, ce sont pas ceux qui attendent le plus des entreprises, parce qu'ils se disent, ils se rendent compte que pour eux, au quotidien, c'est pas si facile que ça. Souvent, ceux qui sont le plus exigeants, c'est ceux qui ont certains comportements et qui finalement prennent pas conscience de toute la difficulté que peuvent avoir les autres pratiques. Et parfois, ceux-là attendent un petit peu trop des entreprises en contrepartie de ce que eux-mêmes font.
Ouais, mais il y a des pièges aussi parce que cette corde sensible-là de responsabilité sociale, ça plaît beaucoup aux consommateurs. Quand je parle de pièges, il y a le marketing qui s'empare aussi de l'étiquetage, d'appellations inventées pour venir nous charmer. On essaie de nous endormir un peu avec ces arguments-là.
C'est très dur pour le consommateur. On le voit, le consommateur, 6 consommateurs sur 10 a ils ont besoin de plus d'informations, notamment sur les conditions de fabrication de produits. Par contre, on se rend compte que il n'y a pas tant de consommateurs que ça qui vont essayer de comprendre est-ce que le produit qu'on propose, est-ce que véritablement il est co-responsable? Alors pourquoi? Est-ce que finalement il cherche pas à savoir? Est-ce que finalement il a laissé tomber parce que il y a trop ou pas assez d'informations? Est-ce qu'il la comprend pas? Est-ce qu'il y a trop d'autodéclarations, trop de labels? Par contre, on se rend compte que c'est sur l'étiquette et via les labels qu'il cherche cette information-là. Donc, ce que veut le consommateur, c'est quelque chose de simple, de transparent, d'authentique et de crédible, et c'est pas toujours facile pour lui.
Ouais, il y a quand même des marques, des compagnies, des entreprises qui se commettent réellement pour la cause. Vous avez fait le top 5 des marques entreprises les plus responsables. Alors, c'est quoi le top 5?
Ah ben, ce sont celles qui sont perçues, faut faire attention, perçues, sont des mentions autodéclarées. Donc, on se rend compte que chaque année, il y a vraiment, et c'est toujours depuis qu'on fait le classement, on voit vraiment une cascade qui ressort auprès des consommateurs. On a des entreprises comme Desjardins et souvent des marques aussi dans le secteur des produits de soins de santé, des produits ménagers comme Institut par exemple, qui ont réussi au fur et à mesure des années à rentrer dans l'habitude des consommateurs et qui ont réussi à faire comprendre les pratiques qu'elles avaient. Mais c'est compliqué, mais il y a énormément, faut faire attention de pas trop taper sur entreprise, il y a énormément d'entreprises qui mettent en place de très belles pratiques, mais elles ont beaucoup de difficultés à l'expliquer aux consommateurs et aux citoyens. Et c'est difficile, finalement, sur un simple étiquetage ou sur le site web, de comprendre tout ce qu'on fait. Mm-hmm. C'est difficile pour le consommateur de comprendre tout ça.
Mais comment ça se fait que, par exemple, Cascade, qui ressort à chaque année, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire pour que la perception soit si forte, la perception favorable soit si forte auprès des consommateurs?
C'est Cascade, on a une historique et on a un engagement de cette culture environnementale qui est longue. Il y a une histoire qui s'est faite et qui sur le temps. Il y a un engagement de cascade qui a été, avant la tendance des années 90 et début des années 2000. Donc, il y a vraiment, ils sont arrivés avant les autres. Donc, il n'y a pas cette perception des fois un peu de mode ou de tendance. Donc, ils ont vraiment réussi ça. Ils font beaucoup de d'éducation, de sensibilisation. Ils arrivent vraiment à bien communiquer ça. Donc, il y a une certaine avance par rapport à d'autres marques. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant chez Cascade.
Et nous, là, les consommateurs, on est plein de bonne volonté. On veut vraiment là faire des achats de proximité. On veut vraiment agir de façon éco-responsable. Mais est-ce qu'on y arrive réellement?
Ben, pas toujours. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est sûr qu'il y a des comportements qui sont institutionnalisés. Le recyclage, il est très fort, tout simplement parce qu'il est encadré, on nous facilite la tâche, on nous a très bien éduqués. L'achat local aussi, c'est très bien implanté ces dernières années.
Ah oui, ça change,
ça change parce qu'il y a une conscientisation très forte. On le voit dans nos études, mais dans toutes les études internationales, il y a vraiment un intérêt très fort pour les consommateurs à l'heure actuelle dans les pays industrialisés. Cette volonté-là, de favoriser l'économie locale. Alors, ça a commencé bien entendu par le secteur alimentaire et c'est en train d'aller vers les autres secteurs, et notamment le secteur manufacturier. Il y a cette volonté vraiment de savoir où a été fabriqué, transformé le produit. Alors maintenant, c'est d'arriver à vraiment sur l'étiquetage, de le faire comprendre aux consommateurs et que ce soit clair et transparent. Ça l'est ici sur le marché alimentaire. Les consommateurs reconnaissent la certification Aliments du Québec. Ils la comprennent, elle est facile. Maintenant, il faut arriver à avoir appliqué le même type de système sur d'autres catégories de produits. Mais vraiment, là, on y est arrivé. Sur les autres secteurs d'activité, c'est un petit peu plus complexe. Et aussi, la problématique, c'est que le consommateur, il le fait, il dit vouloir le faire, mais il faut que ce soit au même prix.
Ah, c'est ça, parce que consommer localement, souvent tu vas favoriser un plus petit commerce où c'est pas de l'abattage de masse, etc. Ça va coûter un petit peu plus cher. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Est-ce que vous avez vu s'il y avait, une clientèle en particulier qui a réussi à faire ce changement vers le commerce de proximité?
Alors, sur l'achat local, on est clairement sur les consommateurs les plus âgés. On est sur les hommes. On est sur des consommateurs avec des revenus un peu plus élevés. C'est clair et net. On le voit depuis plusieurs années. Alors, c'est évident que c'est sûr qu'il y a des catégories de consommation où, c'est lié aux âges. Sur les produits biologiques et équitables, ça séduit beaucoup plus les 25-45 ans. Il y a vraiment des tendances de consommation liées aux catégories, liées à certains revenus aussi. C'est pas forcément toujours les revenus. Mais c'est évident que le consommateur, il est difficile et on le comprend, il veut pas forcément dépenser plus pour ces produits-là. Donc, et ça, c'est la difficulté des entreprises parce que pour avoir ces attributs-là, ça nécessite une transformation du modèle d'affaires, ça nécessite énormément d'efforts. Et comment arriver à avoir ce modèle d'affaires-là qui répond aux valeurs que veulent les consommateurs sans faire payer un prix supplémentaire? C'est le défi majeur.
C'est le défi des prochaines années.
Et il faut que le consommateur comprenne aussi qu'il doit donner la chance aux entreprises qui mettent en place ce genre de modèle d'affaires-là.
Mais souvent, quand on prend la peine d'expliquer pourquoi ça coûte peut-être plus cher à l'achat, mais qu'au bout, ça va vous coûter moins cher dans l'économie globale, ou etc., ça se peut que le consommateur décide de suivre dans ce projet-là, si on lui explique.
Et peu de marques, et moi je vous dirais quasiment aucune marque, n'explique vraiment pourquoi finalement il y a cette différence de prix.
Ah, ça serait peut-être, en tout cas,
Il y a un enjeu là-dessus.
Ben oui. On disait que le recyclage est bien encadré, c'est vrai. On a tous, en tout cas, la plupart, un bac bleu, puis la municipalité vient le chercher. En ce qui concerne le compostage, il y a des municipalités qui ont aussi encadré la collecte des ordures ménagères avec les bacs bruns. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Mais est-ce qu'on avance dans le compostage?
Alors le compostage, pour l'instant, on voit finalement que ça stagne complètement. Et nous, statistiquement, on voit qu'il y a des différences entre les régions du Québec et les régions, et notamment les municipalités, notamment, on le voit très bien dans la région de l'Estrie, les municipalités qui ont mis en place des pratiques depuis plusieurs années et un encadrement spécifique, c'est là qu'on voit les pratiques les plus élevées parce que on aide, on sensibilise, on facilite le comportement. Ce n'est pas aisé, le compostage. Et c'est beaucoup lié aussi au type d'habitation. Dans une maison, c'est beaucoup plus facile que dans des condos au centre-ville de Québec ou de Montréal. Donc, on voit que ça, c'est des comportements comme le transport durable qui nécessitent une facilitation, une éducation, qu'on donne des leviers d'action aux citoyens parce que ce n'est pas si facile que ça. Il faut montrer quel est le bénéfice individuel que va recevoir le consommateur parce que c'est pas forcément un bénéfice sociétal que recherche le consommateur. Le consommateur, il dit qu'est-ce que je gagne en ayant ce comportement-là? Je veux bien aider la société, mais aussi je veux comprendre qu'est-ce que moi, personnellement, je peux gagner en faisant ça, parce que qu'est-ce que ma famille va gagner en faisant ça. C'est très important que qu'on lui fasse comprendre.
Ouais, boucler la boucle. Pourquoi je fais ça? Tu fais ça parce que tu vas avoir ça, tu vas gagner ça, et on va te ramener un sac de compost pour ton jardin l'été prochain. Hein?
Ça pourrait être extrêmement important qu'il voit son gain aussi avec ses proches.
Monsieur Durif, est-ce que le baromètre de la consommation identifie aussi des modes, peut-être des nouvelles tendances qui ressortent?
Ben, on essaye chaque année de regarder les évolutions et qu'est-ce qui ressort, et on les fait ressortir différentes années. Nous, ce qu'on voit depuis, je dirais, 2-3 ans, c'est vraiment l'évolution au niveau des modes de consommation alimentaire. Et on a vu cette année qu'il y avait vraiment un lien qui se développait, notamment avec les modes de consommation d'alimentation végétale, ce qu'on appelle les modes de consommation plus simples, donc les régimes végétariens, gérer tout ce qu'on appelle les censures, etc. Donc on se rend compte que ces consommateurs-là sont des consommateurs qui ont aussi des pratiques responsables. Donc ça, c'est assez intéressant. On regarde aussi beaucoup la mode du bien-être animal. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui commencent à prendre en considération le bien-être animal dans leur choix de consommation de produits alimentaires. Ça, c'est intéressant. On s'intéresse aussi de plus en plus à l'innovation de ce qu'on appelle, vous savez, les produits qui sont imparfaits.
Ouais, fruits, les légumes laits, là.
Fruits, légumes, lait. Donc là, on voit que ça commence aussi à séduire des consommateurs. Le vrac a toujours existé. Il est en train de fortement progresser dans les pays européens, et pas forcément que sous le format sec qu'on connaît, mais sous les formats liquides. Donc on a beaucoup d'étaillants.
Pour les huiles, entre autres.
Oui, beaucoup d'étaillants en Europe, mais des grands détaillants qui ont mis en place des énormes comptoirs. Donc là, on voit que ça séduit ces consommateurs-là en Europe. Donc il y a une évolution qui est en train de se faire. Donc on commence à regarder qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Il y a la volonté, je dirais, d'une économie plus circulaire, aussi le gaspillage alimentaire consommateur est en train de comprendre un petit peu plus comment je peux limiter le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'il y a des nouveaux types de produits? Donc on voit que du côté alimentaire, il y a une évolution de ce mode sain. Là, il y a vraiment cette idée d'aller vers une alimentation plus saine. Et nous, on regarde est-ce que finalement ces consommateurs-là qui vont vers une alimentation plus saine, est-ce que ils peuvent aussi avoir d'autres types de comportements plus responsables? Est-ce que c'est une façon de les sensibiliser ou pas?
Donc c'est beaucoup ça qui nous intéresse. Délaisser la voiture, utiliser les transports en commun. Est-ce que ce changement, cette prise de conscience-là de vouloir être plus responsable dans son alimentation, est-ce que ça se transpose aussi dans l'art de vivre?
C'est un peu ça qu'on regarde, et on se rend compte que cette niche de consommateurs-là, ce sont eux qui vont le plus vers les autres types de comportements. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un mode de vie, finalement, qui se transforme aux autres tendances de consommation.
Ben, excellente discussion, Monsieur Durif. C'était vraiment, vraiment intéressant de mettre la loupe sur nos habitudes de consommation, et puis on se reparlera pour la 9e édition du baromètre, tiens.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous.